J'en viens à la question de l'itinéraire choisi pour cette troisième ligne. C'est quand même quelque chose de très intrusif, un TCSP. On va faire des dégâts, comme il en a été fait dans les différents quartiers qui ont été soumis à des travaux et après à une réduction de la circulation. On ne peut pas être dans tout transport en commun. Donc on a vu aussi, non seulement sur les voies métisses, mais également l'optimisation des lignes qui avait coûté 10 malheureux millions, comme vous aviez dit, Madame Isler-Béguin, lors d'une réunion publique, lorsqu'il s'agissait de l'avenue Leclerc de Haute-Cloque, et où les habitants et les commerçants craignaient donc la suppression de places de stationnement, etc., et parlaient donc des emplois en jeu. Eh bien, ces 10 malheureux millions, plus d'autres, ça crée finalement un grand sentiment d'incompréhension de la part de nos concitoyens, et je ne parlerai pas de ceux de Châtel-Saint-Germain et autres. Et j'en viens à une question, c'est la concertation indispensable quand on change quelque chose. Sinon, on ne fait que des dégâts. Voilà, la concertation. Je passe à d'autres points, j'irai plus rapidement. Donc, dans ce catalogue qui nous est fait, on évoque la 31, donc l'autoroute saturée qui permet à nos concitoyens d'aller chercher les emplois qui manquent malheureusement chez nous. Et pour ce qui concerne plus directement la métropole, je parlerai des nuisances sonores très importantes de la traversée de cette autoroute. Qu'est-ce qu'on a fait pour essayer d'épargner les quartiers traversés? Et également sur la voie rapide Est, c'est des travaux qui me semblent être prioritaires avant d'engager d'autres projets. Les parkings, les P+R qui sont évoqués. Il y a un problème de signalisation également, puisqu'on a des P+R qui ne sont pas remplis. Et sur les autoroutes, on n'a pas une direction pour les personnes qui traversent évidente pour leur montrer qu'il y a moyen de se garer et après de prendre les transports en commun. Il y a quelque chose à améliorer là-dessus. Sur le vélo, on partait quand même de zéro, il faut le reconnaître. Dans la ville de Metz. Donc, il y a eu des choses de faites, mais avant d'en faire plus, peut-être assurer plus de sécurité et une meilleure circulation pour les vélos sur les voies qui sont quand même très. Les voies cyclables qui sont très hachées. Et enfin, sur la marche, alors on est tous, c'est ce que faisaient nos grands-parents d'ailleurs, ils faisaient tout à pied, beaucoup à pied. Mais pour réintroduire donc ce réflexe de marcher, il faut peut-être aussi réintroduire des commerces de proximité qui évitent aux personnes de prendre leur voiture pour trouver un certain nombre de choses qu'on ne trouve plus en ville, qu'on ne trouve plus près de chez nous.
Bien, merci.
Un dernier mot, si vous permettez, puisqu'il y a eu une explication de vote tout à l'heure concernant la loi Elan. Le schéma d'accessibilité qui termine ce plan m'oblige à évoquer donc la conséquence de cette loi Elan. Qui est de diminuer à 20% le nombre de logements accessibles, logements nouveaux accessibles aux personnes handicapées. Et on sait que dans notre métropole, le nombre de logements sociaux accessibles est seulement de 36 ou 38%, je ne sais pas. Donc si on ne fait pas 100% de logements accessibles dans l'avenir, eh bien on aura toujours une injustice. Gravissime qui empêche nos concitoyens victimes d'un handicap de trouver des logements facilement. Je vous remercie et je remporte.
Votre pavé, merci. Madame Migaud.
Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais. Ben, moi, je suis dans la commission mobilité et déplacement et je voudrais vraiment participer enfin, partager ma satisfaction d'avoir contribué, de m'être initié à toutes ces problématiques. C'est vraiment une commission qui est intéressante, où on fait des choses concrètes. Et je voudrais un petit peu illustrer par quelque chose du très quotidien. Tu parlais tout à l'heure, Marianne, des personnes âgées et du vieillissement de notre population, et tu parlais des déambulateurs. Moi, je me trouve confrontée, comme peut-être un certain nombre d'entre vous, j'accompagne mes parents qui sont âgés et qui ont de plus en plus de mal à se déplacer. Et je me suis trouver, voilà, parce que quand ils vont par exemple chez un médecin, quand ils vont n'importe où, ils ont besoin maintenant d'être accompagnés. Il faut que soit moi, soit ma sœur, quelqu'un les accompagne. Et puis, il faut aussi une voiture qui soit confortable, parce que là, c'est plus le déplacement à pied, il faut y aller en voiture. Hein, moi, je n'ai qu'une Twingo, par exemple. Ma Twingo, ça devient limite pour prendre mes parents dedans. Et puis, ben, il faut qu'on ait aussi le temps de les accompagner. Or, vu le recul de l'âge de la retraite, nos pauvres parents ont des gens qui sont encore actifs et qui n'ont pas toujours le temps de les accompagner. Donc, je me réjouissais de l'organisation par les mutuelles d'un service qui s'appelle Sortir Plus. Et donc c'est un peu comme vous achetez des chèques. Et avec ces chèques, vous pouvez payer l'organisation d'un transport. Quelqu'un vient chercher la personne qui paye avec ses chèques, les accompagne en voiture à l'endroit où il faut aller, reste avec eux et puis les ramène. Et donc, eh bien, on a essayé d'expérimenter ça sur un petit trajet. Donc l'autre jour, je demande à ma maman, alors au fait, comment ça s'est passé pour ce dispositif pour vous? Et alors, le problème, c'est que ça passe par des associations, comme vous faites appel pour faire du ménage, de l'aide à domicile, etc. Et donc c'est une personne qui est venue les chercher tous les deux avec une voiture encore plus petite que ma Twingo. Pour un papa unijambiste et une maman qui vient de se faire opérer du genou, donc qui a encore beaucoup de mal à se déplacer.
Bien, merci.
Voilà. Donc, voilà le genre de problématique qu'aujourd'hui on a à résoudre. Et ça se trouve un peu à l'articulation entre plusieurs de nos actions. L'accompagnement des personnes, alors là je ne dirais pas forcément en situation de précarité, mais avec des limites liées à l'âge. Un peu aussi le covoiturage, parce qu'il s'agit effectivement d'accompagner quelqu'un, peut-être on peut partager un véhicule, et puis aussi l'autopartage, parce qu'on n'a pas toujours le véhicule adapté qui permet de faire l'activité qu'on veut. Et puis, il y a quand même une chose, oui, qui est maintenant résolue, c'est le problème du stationnement. Parce que quand vous avez une personne âgée à véhiculer d'un endroit à l'autre, il faut à la fois pouvoir stationner à côté, juste au pied de son immeuble pour la prendre, et il faut aussi pouvoir stationner à côté de l'endroit où elle se rend. Et ça, ce problème-là, maintenant, il commence à être résolu. Par contre, voilà, on a encore des choses à inventer, pas tout seul, c'est pas la métropole toute seule qui va faire ça, c'est en partenariat avec d'autres, mais pour améliorer ce genre de problématique. Voilà,
merci.
Merci
beaucoup, madame, monsieur Cambianica. Avec je vous en conjure, chers collègues, si vous pouviez être condensé dans vos interventions, ce serait génial.
Je vais être, monsieur le Président, le plus court possible.
Merci.
Après le plaisir de la nouveauté, pendant 3 décennies, nous sommes entrés pendant 100 ans dans une ère de possession personnelle de son moyen de transport généralisé, objet également d'un statut social. Martelé sur tous les tons par, évidemment, tous les médias, qui nous demandait ainsi d'abandonner d'autres modes de transport collectif. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle période dans laquelle nous avons reçu un double signal. Celui de ceux pour qui se déplacer est devenu une souffrance financière. Et celui de ceux qui considèrent que consommer des énergies fossiles pour se déplacer est assimilable à un crime contre l'humanité, et que nous devons revenir à une économie du partage. Cela nous oblige. Ça nous oblige par une politique très volontariste de mise en place d'alternatives à l'autosolisme, crédibles en favorisant l'offre de solutions telles que le déploiement plus important des transports en commun, ici où les flux existent. Déploiement plus rapide et plus important des infrastructures sécurisées pour les modes doux, là où on sait réaliste en termes d'usage, de travail, de santé, de tourisme. Petit détail, j'ai lu dans le document Air Climat que nous comptions 82 km de pistes cyclables. Alors, ce sont les mêmes services qui font les calculs. Lorsqu'ils étaient de Metz, ils me serinaient à longueur de travail qu'il y en avait 95. Donc, j'ai supposé que le passage à la métropole avait rétréci les kilomètres. Mais bon, c'est pas très grave. Je continue. Et donc, il y a la solution de l'autopartage en sus du covoiturage, car il remplace entre 5 et 10 véhicules particuliers, y compris et de façon volontariste, dans les communes les plus rurales de notre métropole, en complémentarité avec les transports en commun. Il nous faut réduire à sa part incompressible l'autosolisme et préparer l'ère des véhicules autonomes, qu'ils soient collectifs ou individuels. C'est indispensable et prioritaire pour la santé et le climat. C'est attendu par les citoyens en devenir. C'est notre responsabilité de déployer la future loi LOM. Malheureusement, à écouter certains Cassandres, nous en serions encore à l'âge des cavernes. Je vous remercie.
Merci, Madame Singer. Ensuite, Monsieur Thiel.
Alors, Monsieur le Président, chers collègues, oui, je vais essayer de faire court. Il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été dites. Je trouve que c'est très bien d'avoir un débat de ce genre. Mais pour moi, à la lecture de ce plan de déplacement urbain, je reste tout de même un petit peu dubitative quant aux mesures consignées dans ce document, même si, effectivement, il est très riche. Je me suis notamment demandé à la fin de la lecture, comment ont été fixés les objectifs. Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'on liste ce qu'on prévoit de faire. On regarde ce que ça donnera comme résultat, on transforme ces prévisionnels en objectifs et le tour est joué. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, à mon sens. Alors, je ne suis pas forcément persuadée que ce PDU va améliorer la vie des métropolitains, en tous les cas, sur les quelques années qui arrivent. Alors oui, comme je viens de vous le dire, c'est une mine de données incroyable et je pense que c'est très bien. Mais est-ce que les solutions qui sont envisagées sont les meilleures? Je vous dirais que non. Sont-elles suffisantes? Je vous dirais que non. Parce que je vous rappelle tout de même, nous sommes aujourd'hui 44 communes, notamment beaucoup de communes sont des communes rurales. Et la voiture reste toujours la solution la plus rapide, la plus adaptée en fonction notamment des trajets. Et je pense ici surtout à nos communes éloignées de notre centre urbain. La voiture reste indispensable pour ces personnes qui y résident, pour leur vie quotidienne, pour aller au travail, pour faire leurs courses ou même pour leurs loisirs. Et ce que j'aurais souhaité avoir notamment dans ce PDU, et je ne sais pas si c'est quelque chose que l'on peut peut-être rajouter, c'est un sujet qui m'apparaît important, notamment vis-à-vis de l'urgence climatique. Je pense que nous pourrions notamment travailler à des politiques en partenariat avec nos entreprises qui inciteraient notamment à télétravailler un jour sur cinq ou notamment à décaler les horaires de travail pour désengorger les trajets et les heures de pointe. Je n'ai pas vu dans le plan de déplacement urbain quelque chose par rapport à ça. Donc évidemment, comme je vous le disais, l'urgence climatique nous impose à revoir nos habitudes de déplacement, mais faisons en sorte de ne pas oublier évidemment nos communes rurales. Nous ferions vraiment fausse route, à mon sens, raison pour laquelle je souhaiterais qu'on puisse combler cette lacune dans le PDU, ce qu'on aurait notamment un impact évidemment très positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Thiel.